J'ai choisi de lire Le Contre-un ou Le Discours de la servitude volontaire de la Boétie, puisque je n'avais pas beaucoup d'autres livres et parce que mes parents m'en parlaient souvent en la rattachant à des événements d'actualité. C'est une œuvre d'Étienne de la Boétie, rédigée lorsqu'il avait 18 ans, en 1548, durant la grande époque de l'humanisme, juste avant le commencement des guerres de religion. Ce discours possède une force originale pour l'époque, puisque dans cette œuvre politique singulière, c'est-à-dire une sorte de pamphlet dans la forme et dans le fond, puisqu'il s'agit d'une œuvre courte et militante, le jeune humaniste s'écarte de la recherche traditionnelle du meilleur régime pour aborder la question de la tyrannie dans toute sa radicalité. Né dans le Périgord, il rédige lorsqu'il a 18 ans son discours qui deviendra son œuvre la plus connue. Il est issu d'un milieu aisé et cultivé, il a été nourri par l'étude des civilisations grecques et romaines si importantes pour la formation des humanistes. Il a d'ailleurs traduit de nombreux auteurs de l'Antiquité. Il était magistrat au Parlement de Bordeaux à côté de son ami Montaigne et il participera en tant que médiateur aux négociations entreprises entre catholiques et protestants durant les guerres des religions. Même si on peut rattacher son œuvre à la philosophie politique, il n'est pas proprement considéré comme un philosophe, mais plutôt comme un penseur. Ce discours il a été rédigé en 548 et intitulé d'abord « Le Contre-un », puisqu'en fait dans cette œuvre, la Boétie prend le contre-pied de l'œuvre de Machiavel, le prince, qui prodigue des conseils politiques aux gouvernants afin qu'ils gouvernent avec efficacité, au besoin, sous une forme tyrannique. Au contraire, la Boétie remet en cause la légitimité des tyrans en composant un manifeste en faveur de la liberté, et la problématique est la suivante. Le fait universel de la tyrannie paraît incompréhensible. Comment est-il possible à un seul homme d'en asservir des millions? Et pourquoi la plupart des hommes supportent-ils le malheur de la servitude? Pour éclaircir cette énigme, la Boétie remonte aux causes de la domination et à ses mécanismes, ce qui conduit à réfléchir à l'articulation entre la politique et la nature de l'homme. En effet, c'est un malheur extrême que d'être assujetti à un maître dont on ne peut être assuré de la bonté et qui a toujours le pouvoir d'être méchant quand il le voudra. Donc il va commencer par s'interroger sur la raison du consentement populaire au pouvoir d'un tyran. C'est-à-dire comment une relation de dominé-dominant peut s'installer. Ou encore qu'est-ce qui fait qu'un peuple puisse accepter le malheur de la servitude. On pourrait penser que c'est par faiblesse que les hommes acceptent leur assujettissement. Pourtant ils sont capables, les uns, de combattre pour leur liberté et les autres pour leur prendre cette même liberté. De nombreux récits de vaillance émaillent l'histoire grecque et romaine, notamment la victoire des Grecs contre les Perses, qui atteste donc de la victoire de la liberté sur la domination. Or, la Boétie affirme qu'un tyran seul ne peut subsister si les membres du pays n'y consentent point. Je cite, « Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent malmener puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit, pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre. » Mais je cite encore la Boétie qui dit, « Une seule chose, il en est une seule que les hommes n'ont pas la force de désirer, c'est la liberté. » En effet, partant du fait qu'un tyran ne peut se maintenir au pouvoir sans consentement populaire, il suffirait de ne plus vouloir servir le tyran pour que son pouvoir s'effondre. Mais les hommes font le choix incompréhensible de lui sacrifier leur liberté, aliénant par là leur être même. Il dit « Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres ». À ce stade, il va marquer une digression pour signaler que la liberté est un droit naturel de l'homme, puisque je cite « Nous ne sommes pas seulement nés avec elle, mais aussi avec la passion de la défendre ». La Boétie affirme que la liberté est un droit naturel. En effet, il dit « La liberté est naturelle puisqu'on ne peut tenir personne en servitude sans lui faire de tort, et qu'il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature qui est en tout point raisonnable que le tort. Il en résulte donc que la liberté est naturelle. » En effet, même l'inégalité des aptitudes naturelles ne saurait justifier aucune hiérarchie entre les hommes. Au contraire, il soutient que cette inégalité devrait attribuer au plus fort la puissance de donner et au plus faible celle de recevoir. Il montre ainsi que la nature, qui crée donc la nature de l'homme, celle donc qui est d'être libre, c'est-à-dire sujet à la raison et serf de personne, pousse les hommes à s'allier entre eux pour former une communauté d'égaux fondée sur l'échange et l'amitié. Et donc l'esclavage apparaît comme contre-nature. Donc qu'est-ce qui a pu dénaturer l'homme? Selon la Boétie, c'est d'abord la coutume, l'habitude. Il dit « c'est le fait que la nature a en nous moins de pouvoir que la coutume ». En effet, les hommes élevés sous la tyrannie prennent le pli de la servitude, se laissant assujettir soit par contrainte, soit parce qu'ils sont trompés. Le tyran abrutit et corrompt ses sujets par le principe du pain et des jeux. Ce principe consiste, je cite, à sucrer la servitude d'une venimeuse douceur. Le tyran, il utilise même la religion pour leur inculquer la dévotion, à travers des fables, des histoires inventées. La Boétie évoque aussi la croyance aux rois thaumaturges, qui sont des rois magiciens, des faiseurs de miracles qui, pour certains, avaient la faculté de guérir des maladies. Il va même jusqu'à esquisser une critique de la théorie du droit divin qui rabaisse à une histoire qu'on raconte. Quant aux rares individus éclairés ayant gardé le désir de la liberté, ils sont soit éliminés par le tyran, soit isolés par la censure. De plus, il ajoute que pour associer son pouvoir, le tyran il va s'appuyer sur une chaîne d'intermédiaires. Je cite « Le tyran asservit les sujets, les uns par le moyen des autres. Le secret de la domination réside dans la complicité des petits tyrans qui soutiennent le tyran pour satisfaire leur ambition et leur cupidité. » En effet, chaque maillon de la chaîne accepte d'être tyrannisé, c'est-à-dire asservi, pour pouvoir à son tour tyranniser, démultipliant ainsi la relation de domination jusqu'à enserrer toute la population dans le filet du tyran. Bien sûr, ces petits tyrans, ils ne se rendent même pas compte eux-mêmes de devenir les prochaines victimes du tyran. Et c'est ainsi que se maintient en place la structure pyramidale de cette société. C'est ainsi que le tyran maintient son pouvoir. Et à la base de cette pyramide, il y a le peuple, qui ne fait alors que soutenir la domination d'une bande organisée dont le chef est sacré. En somme, il dit, par les gains et les faveurs qu'on reçoit, des tyrans, on en arrive à ce point qu'ils se trouvent presque aussi nombreux, ceux auxquels la tyrannie profite, que ceux auxquels la liberté plairait. Ainsi, il suffirait que la base de cette structure renonce à soutenir l'édifice social en place pour que celui-ci s'écroule de toutes pièces. La Boétie dit « Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre. Je ne veux pas que vous le poussiez ou l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus et vous le verrez comme un grand colosse à qui on a dérobé sa base de son poids même, fondre en bas et se rompre. » En conclusion, si donc le tyran ne se maintient que grâce à l'ignorance, à la corruption, au paternalisme, à la superstition qu'appuie la religion et à une organisation sociale où les sujets s'asservissent les uns aux autres, il suffirait que l'homme, naturellement né libre, refuse cet asservissement, c'est-à-dire l'abdication de cette liberté, pour qu'il ne soit plus assujetti à ce tyran. Donc cette œuvre subversive a servi aux penseurs et aux acteurs de chaque lutte en faveur de la démocratie. Cette œuvre a d'abord été éditée par les protestants, et donc elle était déjà un signe de révolte au XVIe siècle, et elle sera reprise au fil des siècles, notamment par la Révolution française en 1789, par les victimes du coup d'État de Napoléon III, et même jusqu'aux anarchistes du XXe siècle. Ce texte n'a cessé de dénoncer les méfaits de la tyrannie, qui est malheureusement toujours présente dans maints endroits du monde. À la fois, cette œuvre m'a plu pour sa grande actualité et sa stigmatisation du scandale que représente le fait d'accepter la tyrannie. Et en plus de son importance historique et son influence dans la philosophie politique, elle m'a surtout plu grâce à l'émotion qui a à plusieurs reprises percé sous l'argumentation à travers de nombreuses images employées, à travers des références à l'Antiquité et parfois ainsi que les interjections oratoires. Et donc plus qu'un discours abstrait et philosophique, on croyait entendre la voix même de la Boétie qui ébranle les hommes en nous imposant le spectacle de notre aliénation. Et donc il s'agit ici d'un réquisitoire contre la tyrannie, il s'agit d'un plaidoyer pour la liberté. Et ce discours, il illustre bien l'intérêt des humanistes, à la fois pour l'émergence de la conscience de l'homme et pour la réflexion politique.